Nous allons prolonger un tout petit peu le thème ouvert par Jean-Marc dimanche dernier. Merci à lui d'avoir ouvert ce dossier. Et ça fait aussi le lien avec les psaumes, car souvent dans les psaumes, les auteurs des psaumes appellent à une intervention miraculeuse de Dieu lorsqu'ils sont au fond du gouffre. Aussi, le thème de ce matin sera les miracles. Mais avant de commencer, je vous invite à prier. Notre Dieu et notre Père, nous voulons nous rendre disponibles à ta parole. Nous voulons nous présenter devant toi pour recevoir cette nourriture qui nous fait tant de bien. Seigneur, viens nous visiter, viens nous remplir de ta présence, de ton esprit. Que nous puissions, Seigneur, recevoir de toi quelques paroles qui nous édifient, qui nous corrigent et qui nous instruisent. Viens, Seigneur. Amen. Donc, comme je disais, on va prolonger un peu la thématique des miracles, des dons miraculeux. Alors, je vous rassure, on ne va pas tout aborder, parce qu'en 25, une demi-heure, on n'aura pas le temps. Mais voilà, une porte s'ouvre. On aura, au mois de janvier, une petite conférence d'Alain Isus sur ces questions-là, et puis on prolongera aussi autour de la Pentecôte avec une série de prédications. L'idée, au fond, c'est de se pencher avec sérieux, avec délicatesse sur ces questions, pour qu'un jour, quelques personnes nous disent « Ah, les dons miraculeux, c'est pas du gâteau. Ah, les dons miraculeux, c'est pas vraiment un cadeau, finalement, parce que c'est l'occasion de se disputer, de se chamailler. » Mais voilà, pour introduire ce thème de réflexion, je voudrais vous inviter à lire un court extrait de l'évangile de Jean, au chapitre 6, qui fait suite à notre parcours sur les signes dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 6, verset 16. Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer. Ils montèrent dans un bateau pour se rendre à Capharnaüm, sur l'autre rive de la mer. Les ténèbres étaient déjà là, et Jésus n'était pas encore venu à eux. Un vent violent soufflait, et la mer se soulevait. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils aperçoivent Jésus qui marche sur la mer et s'approche du bateau. Ils eurent peur. Mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans le bateau, et aussitôt, le bateau toucha la terre, là où ils allaient. Amen. Alors avant de commencer notre méditation, je voudrais vous montrer deux petits extraits de vidéos. Fred a complètement déconnecté son cerveau, il veut nous expliquer qu'au fond, c'est possible de marcher sur l'eau. Parce qu'il faut dire quand même que ces deux vidéos nous dérangent un tout petit peu. Hein, vous avez vu la première, c'est un moine Shaolin qui pendant 10 ans s'est entraîné avec méditation, etc. pour traverser sur ses petits flotteurs 125 mètres. Alors là, on a vu un échec, mais en fait, il y arrive. Et il le fait pour lever des fonds, pour la scolarisation des enfants défavorisés. C'est honorable. Et la deuxième vidéo, c'est une expérience qui s'est déroulée en Malaisie, rapportée par Science et Vie. Et voici ce qu'ils disent comme commentaire. Qui donc n'a jamais rêvé de marcher sur l'eau? Ne serait-ce pas un miracle? Cela est possible. En fait, non content de marcher, vous pourriez même courir, pour peu que vous ayez la foi en vos capacités. Le truc, car il n'y a rien de religieux, de magique ou de paranormal, est qu'il vous faudra, pour y parvenir, disposer de plusieurs milliers de litres de fluide non newtonien, en gros de la maïzena, pour y parvenir. Un exemple que vous avez peut-être expérimenté si vous avez été à la plage, vous savez, sur les rives où c'est un peu mouillé, si vous plantez le doigt, vous vous enfoncez, si vous tapez avec la paume de la main, vous ne vous enfoncez pas. Alors le plus drôle dans cette histoire, c'est que cette expérience a nécessité plus de 8000 litres de ce produit non newtonien, là, qu'on avait vu. On a mis un petit peu de colorant et puis on a fait un semblant de piscine. Et le plus drôle, c'est que c'était pour une pub, pour une publicité, pour une banque. Encore une histoire de liquidité, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de ces deux vidéos? Elles nous invitent à une autre lecture, il me semble, de notre évangile. Faut-il vraiment croire que Jésus ait marché sur l'eau? Faut-il le croire? Autrement dit, est-ce que ce miracle qui a lieu doit-il être vraiment si miraculeux pour comprendre notre passage? Vous le savez, le miracle dans l'évangile de Jean est appelé signe. Signe comme une façon, au fond, de nous dire « Hop, réveillez votre petit radar à signe ». Juste avant, dans le chapitre 6, on a entendu parler de pain distribué de façon miraculeuse, d'allusion à Moïse, à Élie. Et puis là, on parle d'une zone humide qu'un homme a traversée. Et vous savez, les signes révèlent dans l'évangile de Jean qui est Dieu et ce qu'il vient faire. Alors voilà, les disciples sont tout seuls, Jésus est sur sa montagne, un peu comme Moïse et le peuple d'Israël. Après avoir passé un super temps où la nourriture était en abondance, Jésus se retire, les disciples ne savent pas trop quoi faire. Ils prennent la barque et rentrent à la base, à Capharnaüm. Et là, ils sont au milieu du lac, voient Jésus, ont peur, et puis au moment où ils veulent le prendre dans le bateau, ils arrivent à quai, presque miraculeusement. Alors, comment comprendre tout ça? Est-ce que Jésus aurait mis un peu de maïzena dans le lac de Tibériade? Un moteur dans le bateau? Est-ce qu'il ne faudrait pas, au fond, comprendre ce texte de façon symbolique, en disant « Mais non, Jésus n'a pas vraiment marché sur l'eau. Mais il vient là, symboliquement, nous présenter comme un homme de bien qui vient à notre rencontre gentiment, là où on est dans nos ténèbres, nos tempêtes, là où il fait sombre. » Et puis, ce qui est plus important, c'est ces belles paroles qu'il nous dit. « C'est moi, n'ayez pas peur. » Mais le problème, c'est quel sens doit-on donner à tout ça, si ce n'est pas un miracle? Quel sens donner à ces paroles, « N'ayez pas peur, si ce n'est pas un miracle ?» Parce qu'au fond, imaginez-vous être à la place des disciples. Vous êtes en pleine tempête, en pleine mer, dans la nuit, et vous voyez un type, alors que vous connaissez bien sûr, venir à vous, marcher sur l'eau. Et ce même personne vous dit « N'aie pas peur, c'est moi. » Jésus, est-ce que tu n'aurais pas pu prendre une barque, traverser comme tout le monde le lac, et puis, ou alors même faire le tour de la rive, et puis à ce moment-là, on aurait compris. Oui, n'aie pas peur, d'accord. Et puis si, ce n'est pas un miracle. Celui qui nous invite à le suivre, ce Jésus, ne nous rassure-t-il vraiment en nous disant cela, en se présentant comme un homme capable, soi-disant, de marcher sur l'eau? Et puis une autre question soulevée par une interprétation assez symbolique des choses. Que fait Jésus dans la vie, dans son ministère? Soit on considère que Jésus fait un peu des choses un peu au hasard, il monte dans la montagne, faire un petit tour de randonnée, rencontrer son père, discuter, prier. Et puis il n'a pas vu le temps passer, il dit « Oh, il faut que j'aille rejoindre mes disciples, je descends de la montagne, faire un petit bain de pied, ça fait de mal à personne. » Et puis « Ah, mes disciples sont en plein milieu d'un bourbier. » Soit on considère que Jésus fait un peu les choses au hasard, soit on va considérer qu'il est intentionnel dans son ministère et qu'il fait les choses pour dire quelque chose à tes disciples et appeler à la foi. Alors, chers amis, ce matin, j'ai envie de militer pour que ce miracle soit vraiment un miracle. Parce que si ce miracle n'est pas un miracle, il va poser problème pour l'interprétation de notre passage. Pourquoi le miracle est-il si important ici? Le premier point, Alex, si tu veux bien. Ce passage fait des allusions à d'autres passages de l'Ancien Testament. Et si ce miracle n'est pas un miracle, alors toutes ces allusions tombent à l'eau. La première allusion, c'est un épisode que l'on connaît, la création, au chapitre 1. Donc voici quelques extraits. Dieu dit qu'il y ait une voûte au milieu des eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit la voûte, il sépara les eaux qui sont au-dessous de la voûte et les eaux qui sont au-dessus de la voûte. Il en fut ainsi. Dieu appela la voûte ciel. Il eut un soir, il eut un matin, deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel s'amassent en un seul lieu et que la terre ferme apparaisse. Il en fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Voilà un extrait où il y a une maîtrise de l'eau, où on retrouve la terre ferme, cette même terre que l'on retrouve dans notre évangile de Jean, où les disciples arrivent de façon miraculeuse. Deuxième allusion, deuxième intervention, Moïse et la traversée de la mer Rouge. Alors Moïse étendit sa main sur la mer, le Seigneur refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les Israélites entrèrent au milieu de la mer sur la terre ferme. Les eaux étaient pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Deuxième allusion, deuxième intervention miraculeuse de Dieu sur l'eau. Troisième allusion, celle d'Élie, en fin de parcours, en fin de ministère, que l'on trouve dans le livre de Droits, au chapitre 2. 50 hommes d'entre les prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent en face, à quelque distance. Eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se divisèrent de part et d'autre. Et ils passèrent tous les deux à sec. Trois extraits d'un texte biblique, trois allusions. Et j'ai une question pour vous, les amis. Quels sont les points communs entre ces trois textes? Quels sont les trois points, enfin les points communs que vous repérez? L'eau. On mouille pas. Oui, terre sèche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un miracle, oui. Et le miracle est ici une intervention de qui? De Dieu, qui va se servir de Moïse et d'Élie. Et quel est l'objectif à chaque fois? Traverser, aller en sécurité, au fond, éviter un danger. Dans le récit de la Genèse, Dieu crée la vie. Et dans les récits suivants, il va intervenir parmi cette masse d'eau pour préserver, pour sauver la vie des personnes qui le suivent. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça dans notre évangile de Jean? N'y aurait-il pas une intervention de Dieu en faveur de Jésus? N'y aurait-il pas, comme Élie et Moïse, la présence d'un homme particulier? Et n'y a-t-il pas un danger dont les disciples sont préservés ici? Pas nécessairement la tempête. Le texte ne nous dit pas qu'ils ont peur à cause de la tempête, mais ils ont peur parce qu'ils ont vu Jésus. Mais quel est le danger, à votre avis, qui menace les disciples? Quel peut être le danger? Quel est le message que vient donner Jésus à ses disciples? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car au fond, et c'est exactement ce que vont confesser les disciples à la fin du chapitre 6, au verset 68, Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Second point, le miracle donne aussi un sens au signe, au sens derrière ce miracle. Si le miracle est une tromperie, si Jésus nous trompe, ce qu'il veut signifier par son action tombe à l'eau. Si nous pouvons arriver à expliquer la marche sur l'eau, alors le sens qui est derrière tombe également à l'eau. Mais en réalité, le miracle permet de comprendre quelque chose. C'est que Jésus est en train de marcher sur les pas du prophète Élie, du prophète Moïse. Il est celui qui vient conduire son peuple, alors ici les disciples, ceux qui croient, vers la terre ferme, vers la sécurité, vers la maison de l'Éternel, vers le temple. Et Jésus, et ce nouvel Élie, ce nouveau Moïse. Mais est-il simplement un prophète ? Eh bien, un troisième point, le miracle donne sens également à ses paroles, à son action, mais aussi à ses paroles. Car qu'est-ce que dit Jésus à ses disciples ? Au verset 20. Alors, nos traductions disent souvent « c'est moi, n'ayez pas peur ». Mais une traduction assez littérale, chers amis étudiantes et étudiants, en grec, serait « ego eimi », « moi, je suis, n'ayez pas peur ». Et le « je suis » vous fait penser à qui ? À Dieu. Le « je suis », c'est exactement la façon dont Dieu s'est présenté à Moïse en Exode 3. « Je suis ». Jésus, plus qu'un prophète, ne serait-il pas Dieu lui-même ? Parce que, vous le savez peut-être, mais la faculté de marcher sur l'eau était une caractéristique reconnue pour les divinités dans le monde gréco-romain. Et être capable de maîtriser les eaux est aussi une caractéristique de Dieu, nous l'avons vu. Jésus ne serait-il pas plus alors qu'un simple prophète ? S'il est capable de maîtriser les eaux, de marcher dessus, comme Dieu le fait, ne serait-il pas plus qu'un prophète ? Et puis, si c'est un miracle, si alors on comprend que Jésus est plus qu'un prophète et qu'il est Dieu lui-même, le « n'ayez pas peur », que l'on retrouve dans bien des textes bibliques où Dieu apparaît, parce que les disciples ont peur de quoi ? Pas de la tempête, pas de la nuit, pas d'être au milieu de la mer, et pourtant la mer est un symbole de chaos pour la pensée juive. Ce qu'ils ont peur, c'est qu'ils reconnaissent en Jésus une apparition de Dieu. Aussi, ce « n'ayez pas peur », si c'est Jésus, Fils de Dieu, Dieu lui-même qui nous le dit. Oh, combien c'est rassurant ! Quelles sont douces ces paroles ! Car lorsque l'on traverse des tempêtes dans nos vies, lorsqu'on est dans le chaos, lorsque nous avons peur, entendre Dieu lui-même nous dire « N'aie pas peur, je suis avec toi », qu'est-ce que c'est rassurant, n'est-ce pas ? Alors il faut croire que ce miracle est un miracle. Enfin, pour terminer, ce miracle, ces miracles, à la fois cette traversée sur l'eau, et cette arrivée assez étonnante sur la terre ferme sont des pierres blanches. Vous savez, ces petits cailloux qui vont conduire les disciples à croire. Croire et comprendre que Jésus est le Fils de Dieu. Croire et comprendre qu'il est venu donner les paroles qui mènent à la vie. Ils vont comprendre, cheminer, alors même que toutes les personnes vont les laisser, les abandonner. Si vous lisez la suite de l'évangile de Jean, dans le discours que Jésus va faire, les personnes vont partir petit à petit. Et Jésus va dire à ses disciples, « Et vous, qu'est-ce que vous faites là ? Vous allez partir aussi ? Non. Jésus, tu es l'envoyé de Dieu et tu as les paroles de la vie éternelle. » Ce miracle est un miracle nécessaire pour cheminer. Alors en conclusion, faut-il croire à ces miracles ? Et plus généralement, faut-il croire aux miracles aujourd'hui ? Pour reprendre un petit terme utilisé par Jean-Marc, une manifestation de puissance, la puissance des miracles. Faut-il y croire encore aujourd'hui ? Alors, pour ma part, ça mériterait d'amples développements, et là je sens tout le monde tremble. Je crois qu'il faut croire au miracle dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. Mais je crois qu'il ne faut pas s'arrêter au miracle. Oui, il y a des miracles aujourd'hui. Mais la question qu'il faut se poser, comme la question des dons miraculeux dont Paul parle dans 1 Corinthiens, C'est à quoi sert le miracle? À quoi sert tel ou tel don? Et Jean-Marc l'a dit, est-ce que c'est pour mon éloge personnel? Est-ce que c'est pour la gloire? Ou est-ce qu'il y a un sens derrière? Chers amis, qu'est-ce qui est décrit dans l'Épître aux Romains comme la puissance, Jean-Marc, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit? Est-ce que c'est le miracle de guérison? Est-ce que c'est le miracle de parler des langues que l'on ne connaît pas? Qu'est-ce qui est marqué? La puissance de Dieu, c'est l'Évangile, cette bonne nouvelle. Aussi, les miracles doivent-ils être mis à leur juste place? On l'a vu, on peut singer, entre guillemets, des miracles, n'est-ce pas? Jésus ne s'est pas entraîné, lui, pendant des dizaines d'années pour marcher sur l'eau, pour marcher simplement 125 mètres. Jésus n'a pas mis des tonnes de maïzena dans le lac de Tibériade. Il a marché 6 kilomètres. Où est apparu? Peu importe, on peut singer les miracles. Mais attention, le vrai miracle renvoie à des réalités beaucoup plus profondes. Et ici, c'est deux choses pour les disciples de Jésus. Un, Jésus est Dieu. Deux, Jésus nous mène à bon port. C'est lui qui nous conduit. Voici ce qu'ont appris les disciples. Rien n'est impossible à Dieu, n'est-ce pas, nous dit la parole. Le miracle est une grâce imméritée, mais qui pointe vers Dieu. Une guérison, une manifestation assez incroyable. Si elle reste une fin en soi, oh que nous sommes malheureux. Mais si elle pointe sur une réalité beaucoup plus haute, beaucoup plus importante. Et puis, si on dit ça, si on dit que le miracle arrive, que c'est une faveur imméritée, mais que penser quand il ne vient pas? Quand on prie pour telle ou telle chose, comme certains psaumes, est-ce qu'on n'a pas assez prié avec puissance? Est-ce qu'on n'a pas assez jeûné avec puissance? Qu'a-t-on fait de travers? Est-ce que j'ai un péché un peu caché que je ne veux pas dire? Oh, peut-être. Mais résumé à cela, le non-exaucement d'un miracle serait, à mon sens, avoir un pauvre sens de l'histoire du plan de Dieu. Car le miracle visible n'a peut-être pas lieu, apparemment, ou pas encore. Mais qu'en est-il de ce qui se passe dans le cœur d'un tel ou un tel, lorsque Jésus vient et dit « Je suis là, n'aie pas peur ». Car à mon sens, le plus grand des miracles, c'est quelqu'un qui se tourne vers Dieu et que Dieu est en train de transformer. Regardez-vous, regardons-nous, ne sommes-nous pas des miracles ambulants? Ne sommes-nous pas des personnes qui avons la faveur imméritée de Dieu, d'un Dieu qui nous aime, qui a envoyé son Fils pour que nous puissions rentrer à bon port, être dans la maison de Dieu? Et puis le miracle est une manifestation divine qui a un impact plus profond et qui nous conduit à aller voir plus loin. Parce que Jésus même se méfiait des personnes qui le suivaient rien que pour les miracles. Car ce que Jésus appelle, attendez-nous, c'est une foi. Et quel est le plus grand miracle que les hommes et les femmes rêvent de pouvoir faire? Parce que marcher sur l'eau, c'est intéressant, mais ça marche 5 minutes, quoi. Mais quel est le plus grand miracle que les hommes sont en train d'essayer de faire? Alors, question à 10 000 points. Si je vous dis Hibernatus, la vie éternelle, l'immortalité. L'immortalité. Alors, Jésus n'est pas venu pour nous donner l'immortalité, mais la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est cette vie après la mort, mais c'est cette vie qui commence maintenant, avec cette possibilité de rencontrer Dieu et de le connaître. Et ce miracle de Dieu qui vient le premier. Et ça, c'est un miracle aussi. Un Dieu qui vient le premier parce qu'il nous aime nous rencontrer. Et enfin, le miracle. C'est un petit bout de paradis sur terre, finalement. Parce que les miracles sont des signes, des petits flashs qui pointent vers l'inauguration du royaume de Dieu que Jésus est venu inaugurer. Un royaume qui combat le mal, qui combat la souffrance. Oui, ce qui est extraordinaire, la guérison, la vie éternelle, plus de mort, plus de souffrance, plus de maladie, ça, c'est extraordinaire dans nos vies, dans l'ordinaire de notre vie. Mais ce que Jésus vient montrer, c'est que cet extraordinaire dans nos vies sera l'ordinaire dans le royaume de Dieu. Car le miracle, c'est le petit surgissement de ce royaume qui vient, que ce royaume que Jésus vient annoncer. Oui, chers amis, il faut croire aux miracles, mais il faut les placer à leur juste place. Car le Seigneur Jésus est venu faire une brèche, rendre accessible le chemin vers Dieu. Et le danger est grand de nous arrêter simplement au signe. Car lorsque l'on entend telle ou telle parole de Jésus, difficile parfois, le sentiment et l'abandon peut être rapide. Alors nous qui sommes là, aujourd'hui, quelle que soit votre situation, la peine, la joie, la maladie ou la santé, que vous soyez environné de pénombre, embourbé dans les ténèbres, désespéré, ou au contraire plein d'élan dans votre vie. Nous sommes comme ces disciples de Jésus, dans la barque, peut-être au milieu de notre vie, peut-être un peu avancé, mais Jésus se place là, devant nous. Et il dit ceci, « Je suis ton Dieu. Je suis avec toi. Je peux t'aider. N'aie pas peur. » N'aie pas peur. Et la question se pose alors, pour nous, qu'allons-nous faire? Allons-nous croire ces paroles? Allons-nous laisser Jésus nous porter jusqu'à bon port? Amen.